Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Florence Lapierre. C'est la cofondatrice de l'application Simone. Simone est lancée en mai 2015 et permet de réserver en direct de son téléphone et en un clic des prestations de beauté à domicile ou même au bureau. Que ce soit très tôt le matin ou même jusque très tard le soir, et cela 7 jours sur 7. Simone propose de la manicure, du maquillage, de la coiffure à domicile. En fait, ce service a réenchanté le quotidien des femmes actives puisque la beauté se commande désormais du bout des doigts. Et en moins de 2 heures, un professionnel de la beauté arrive chez vous. Alors effectivement, ça se passe à Paris et autour de Paris. Je suis moi-même devenue accro à ce type de service, surtout pour faire mes ongles. Je n'ai plus besoin d'attendre des heures sur place. Ce type de service cartonne, tout simplement parce qu'il permet aux clients d'optimiser leur moment off, de ne pas passer leur samedi ou le midi à courir les instituts. En bref, ne pas rogner sur ce temps précieux libre. Bref, sur Internet, on entend parler du Uber de la beauté à domicile ou au bureau pour les applications telles que Simone. J'ai donc invité Florence à me rejoindre autour d'un podcast et à l'accepter. Je suis ravie de l'accueillir parce que son parcours me passionne. Bienvenue Florence.
Bonjour Katia. Alors Florence, je t'ai pas mal googlé avant cette interview. Qu'on se le dise, je connaissais bien ton appli, mais moins le parcours de la personne qui se trouvait derrière. Alors, qui es-tu Florence ?
Eh bien, je suis une Parisienne, maman d'un enfant et une professionnelle du marketing, du digital avant tout, et surtout passionnée par la beauté.
Alors, j'ai lu quelque chose sur toi, dans un article. Hein. Je n'avais pas spécialement l'âme d'une entrepreneuse, mais j'étais frustrée en étant en entreprise, de ne pas pouvoir innover. Donc, tu as travaillé dans le milieu de la mode avant, il me semble, c'est ça ?
Oui, exactement. Je suis passée par des grandes entreprises, donc j'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience. Je suis passée par Christian Dior Couture et les Galeries Lafayette également. Quand je dis que je n'ai pas exactement l'âme d'une entrepreneuse, c'est que je n'avais jamais imaginé qu'un jour je me lancerais dans un projet personnel, déjà. Souvent, on entend les entrepreneurs démarrer très rapidement, juste après, à la sortie de leurs études. Et pour ma part, j'étais absolument ravie de mon évolution professionnelle. J'ai fait des tas de choses intéressantes. J'ai souvent été frustrée de ne pas pouvoir mettre en application des idées que j'avais envie de défendre avec ferveur. Et quand on travaille dans une grande entreprise, bah avant tout, on porte un maillot, on se conforme aux règles, on se conforme à la stratégie qui a été décidée. Et puis, même si on a des bonnes idées, on est plus ou moins écouté, mais on ne peut pas toujours les réaliser. Alors, quand on y croit, ça peut être... Il faut savoir ranger son frein et puis se dire que ce qu'on fait est déjà extrêmement bien. Je pense que je pourrais avoir un profil d'intrapreneur. L'entrepreneuriat, c'est une envie qui est venue parce que il fallait y aller et j'avais pas le choix. J'y croyais tellement que je me suis pas laissé de doute là-dessus.
Mais à quel moment, du coup, tu as commencé à faire Simone ?
Alors Simone, qui ne s'appelait pas encore Simone, mais l'envie de faire une application de service à la demande est venue, ça a commencé en 2013, donc ça commence à faire un bail. C'était à l'occasion de mon congé maternité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent dans des moments où on marque un temps d'arrêt, où on se met à observer autour de soi, qu'on s'aperçoit des manques, des choses, des besoins, enfin de tout ce qu'il y a encore à faire, des besoins criants. Alors j'étais arrêtée, c'était un petit peu avant la naissance de mon enfant, et puis je passais dans la rue, j'observais la semaine les salons de coiffure, de beauté qui étaient complètement vide. Je rentrais chez moi, j'avais une manucure qui venait à la maison. Et puis souvent, en passant devant les salons, je me disais, mais c'est fou, tous ces gens qui ne font rien, alors qu'il y a probablement plein de femmes comme moi qui rêveraient qu'on se déplace pour elles, chez elles, dans leur bureau, et qui ont besoin, enfin en tout cas, qui seraient prêtes à consacrer un peu de temps si on leur facilite l'accès aux soins. Et puis la deuxième étape qui a déclenché l'idée de l'application, c'était en prenant un Uber, en discutant avec le chauffeur. Et là, je me suis dit, cette application est absolument géniale. Il y a un truc à faire. Il nous faut une application comme ça. On appuie sur un bouton, on peut commander, c'est facile. Donc là, c'était la facilité d'usage qui venait en plus dans l'idée principale qu'il fallait mobiliser les professionnels des salons vers les clients, tout comme on le fait dans l'e-commerce. Finalement, à l'époque, je travaillais dans l'e-commerce et puis on avait toujours ce sens du client au centre des préoccupations. Les fondements de l'e-commerce, c'est de se dire pour mieux vendre, il faut aller vers le client. La logique a été exactement la même.
Et quand tu as démarré ton projet, j'ai vu sur un article également que tu avais testé avec des copines. Tu l'avais testé sur des amis, non ?
J'ai fait une enquête. J'ai lancé tout de suite une enquête. On n'est pas forcément... Alors, si on est souvent son propre client, on répond à son propre besoin quand on crée un projet entrepreneurial. Il faut avoir conscience qu'on n'est pas représentatif forcément de tout le monde. Du coup, par prudence, par précaution, j'ai lancé une enquête auprès d'un groupe de femmes que j'avais identifiées comme des clientes potentielles. L'idée, c'était de savoir est-ce qu'elles avaient déjà utilisé des services à domicile ? Si oui, comment elles étaient arrivées, comment elles avaient connu ces services. Sinon, est-ce qu'elles apprécieraient d'utiliser des services à domicile ? Quand est-ce qu'elles le feraient ? Et s'il existait une application ou un site pour ça, qui leur faisait des bonnes recommandations, est-ce qu'elles l'utiliseraient ? Et les retours étaient vraiment édifiants.
Tu t'es dit go, quoi.
Là, je me suis dit que j'étais sur un bon filon.
Il n'y avait pas que toi.
Il n'y avait pas que moi. Mais la petite couche, le petit accélérateur du projet, ça a été un copain qui m'a parlé d'une application qui venait de sortir aux États-Unis à San Francisco, qui s'appelle Stylebee. C'était, il me semble, la première application du genre. Donc, on était fin 2013. Mon ventre commençait j'étais à 8 mois et demi de grossesse. Donc, je commençais à être fichtrement à l'aise. Et là, je me suis dit, oh, mon Dieu, les Américains s'y mettent. Donc, il faut y aller parce que toutes les femmes sont pareilles. Ouais. Et donc, forcément, en Europe, on le fera aussi. Il ne faut pas perdre de temps. J'accouche et puis, dans un mois, je crée ma boîte. Voilà.
Bravo.
Ça s'est pas tout à fait déroulé comme ça.
Je suppose que justement, c'était ma question. D'après, tu as eu des moments de doute qui ont été difficiles, je suppose. J'ai moi-même créé ma boîte à une époque, tout de suite après les études. Donc, je sais le genre de questions qu'on peut avoir ou de réticences. De la famille ou des amis qui te disent « Mais attends, mais t'es dans telle boîte, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vas monter ta boîte ? Fais attention, là, tous les mois, tu as un salaire, tu es salarié. »
C'est vrai qu'on nous dit ça. J'étais persuadée que ce projet était bien fondé, avait une vraie valeur ajoutée. Et je venais de devenir une maman. C'était un moment difficile, un moment heureux, mais difficile parce que absorbant énormément d'énergie et d'attention. Je savais pas tout à fait comment j'allais faire pour démarrer ce projet qui me tenait à cœur. Et je devais reprendre, à un moment donné, je devais quand même reprendre mon boulot. Donc, quoi qu'il arrive, le congé, le temps que je passais à la maison avec mon enfant devait s'arrêter. Et ça a forcé la réflexion. Il y avait cet instant où il fallait se décider. C'était soit je retournais, et je savais que si je remettais un pied dans l'entreprise,
c'était fini.
C'était fini. Mmh. Je ne me lancerais pas dans ce projet entrepreneurial. Mmh. Ou alors, je décidais d'arrêter. Et là, forcément, c'était le saut dans le vide. Mmh. J'avais pas le choix. Il fallait y aller. Il fallait réussir. Mmh. Les soutiens de ma famille, je les ai eus. Mon mari a toujours été de mon côté et croyait en moi, donc m'a encouragée à réussir ce que je voulais entreprendre. Ma famille également et mes amis également. Le seul petit détail, c'est que je ne voulais pas vivre seule cette aventure. Il fallait que je partage, il fallait que je puisse échanger, challenger mes idées, ne pas compter que sur moi. Je voyais des choses tellement grandes à faire dans ce projet que je me disais toute seule, j'y arriverai jamais. Il faudrait qu'on soit deux, trois, peut-être plus. Et je me suis mis en quête d'une associée. Et c'est là que j'ai croisé la route de Caroline, avec qui j'ai créé Simone.
Waouh. Et Simone, au départ, c'était seulement de la manicure?
Alors, pas complètement. Ça, c'est pour la partie visible au public.
Ah bon ?
Dès le départ, il fallait faire tous les services de beauté. Pas de raison de s'arrêter spécialement à la manucure. Seulement, ni moi, ni Caroline n'avions un CAP esthétique, ne connaissions exactement les protocoles, si ce n'est en simple consommatrice exigeante. Donc on a l'habitude d'observer, on connaît les bonnes marques. Mais en réalité, quand on a commencé à faire nos premiers recrutements, on s'est aperçu de la difficulté et du niveau de connaissance qu'il allait falloir développer. Mmh. Donc il y a eu toute une période qui a été notre montée en compétences. On avait commencé effectivement à rencontrer des manucures. Et quand on s'est aperçu de l'effort que ça nous coûtait, on s'est dit, bon, on va pas se lancer dans la coiffure tout de suite, parce que là, apprendre en même temps à couper des cheveux, en plus des techniques de manucure et de beauté des pieds, ça va devenir un petit peu compliqué. Une deuxième chose à jouer dans le choix de sortir, de ne proposer que la manucure pour démarrer l'application Simone, c'était qu'il fallait tester un soin qui était peu engageant, finalement, qui n'allait pas complètement mettre en réserve la consommatrice. C'est-à-dire, par exemple, quand on travaille sur de la coupe, de la coiffure, du maquillage, on touche à l'identité. Donc ce sont des choses qui sont où il faut énormément de confiance. Difficile de se lancer avec un nouveau projet et de gagner la confiance immédiatement sur de la coiffure. La manucure, c'est moins engageant. La manucure, bon, on vous fait une belle manucure. Si la manucure n'est pas complètement bien réussi, c'est pas très grave, on peut la défaire, on peut la refaire. Une coupe, quand elle est ratée, on déteste le coiffeur qui nous l'a fait et on revient plus jamais. Donc voilà, on s'est dit le plus gros enjeu pour lancer ce projet, c'était un de s'assurer que les femmes auraient envie, seraient prêtes à nous accorder de la confiance, seraient prêtes à ouvrir leurs portes à des inconnus, seraient prêtes à faire confiance juste à une application, c'est-à-dire ne pas savoir à qui elles s'adressent, à qui elles parlent, auprès de qui elles commandent, et de trouver simplement la démarche sympathique, convenient, ça y est, je suis Jean-Claude Van Damme, pratique, voilà, confortable pour leur quotidien et se laisser séduire par ce nouveau mode de consommation des soins de beauté.
En fait, les femmes avaient un peu pris l'habitude avec Uber, en tout cas les parisiennes, donc ça a peut-être un peu aidé.
Ouais, alors dans le raisonnement de l'application.
Faites d'un clic.
Oui, faites-le en un clic. OK. La beauté, on s'aperçoit avec, on s'est aperçu avec nos premières clientes et surtout des Parisiennes, ce qu'on appelle des early adopteurs, donc des gens qui vont très rapidement vers la nouveauté pour la tester et éventuellement ambassader, évangéliser autour de ces nouveautés qui ont été découvertes. Elles sont exigeantes. Donc on ne peut pas se permettre d'aller au hasard. Ce qui était fondamental, il y a deux points extrêmement essentiels dans le lancement de ce service. C'est d'une part de procurer une expérience utilisateur, donc pour la partie application, quelque chose d'extrêmement simple où on se pose peu de questions, où on se dit ok, c'est fluide, je choisis mon soin, je rentre mon adresse, voilà, j'ai pris un jour, une heure, je connais mon prix, je rentre ma carte, et puis je sais quand est-ce qu'on vient chez moi. Et le deuxième volet extrêmement important, c'est la qualité du recrutement qu'on va faire. Quand on a démarré Simone, nos premiers recrutements, c'était compliqué. On voyait des filles qui n'avaient pas le niveau, et on se faisait couper, on se faisait massacrer les doigts. Franchement, ouais. on s'est fait charcuter les doigts à être les premières à tester pour nos clientes.
En fait, vous les testiez toutes les premières.
On les teste toujours. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a qu'on est mieux installé, qu'on a une forme de visibilité, une petite notoriété, on a d'excellentes professionnelles qui viennent se proposer naturellement à nous. Donc maintenant, ça devient beaucoup plus un plaisir de les tester. Mais on les teste toujours. On les teste. Il y a personne qui rentre sans être passé par le fameux test.
Oh, c'est bien, c'est rassurant. Voilà. Et pourquoi le nom Simone ? Parce que tu t'appelles Florence.
C'est vrai. Alors déjà, Simone, on l'a monté à deux. Donc ça allait ni s'appeler Simone ni Caroline.
Ouais. Ensuite, ça aurait pu être un mix des deux.
On y a songé également. C'est très difficile, cette étape du naming... du moment où on va définir le nom de la marque. On voulait créer une marque. Donc, on y a passé, je pense qu'on y a bien passé un mois et demi, à brasser des noms dans tous les sens. Et on ne voulait pas que ça s'appelle, par exemple, mabeauté.com ou mes ongles à domicile, enfin, peu importe. On ne voulait pas caractériser la beauté, on voulait caractériser nos valeurs. Et... quand on a fait notre plateforme de marque, donc ce qui permet de définir le sens de la marque, les gens, la cible à laquelle elle s'adresse, les valeurs qu'elle veut porter, sa proposition, sa valeur ajoutée, sa promesse. On avait identifié la bienveillance comme une valeur définitivement sur laquelle on était en accord avec Caroline. Il y avait l'élégance, l'exigence. Et puis un jour, en parlant des prénoms, mon mari dit « si c'était un prénom, ce serait quoi ?» Et puis sorti comme ça « Simone ». En rigolant, on a digressé sur le prénom Simone. Il s'est passé que le prénom a fait son chemin dans notre tête. On a trouvé que c'était un... Tout le monde avait une Simone en tête. Le monde a une grand-mère, une tante, connaît une Simone. Il y a un côté rassurant. C'est une femme qui inspire, c'est un prénom qui inspire une certaine forme de respect, même s'il est désuet. Ça pouvait être, pourquoi pas, une esthéticienne d'antan. Ça pouvait être la taulière du salon d'esthétique. C'est aussi les Simone sont des femmes qui ont accompli beaucoup pour la cause des femmes, et on s'est laissé porter par ce prénom parce qu'il correspondait exactement à tout ce en quoi on croyait. Faire un service principalement pour des femmes, et les professionnels qui travaillent avec nous sont aussi majoritairement des femmes. Et il se trouve que les fondatrices sont deux femmes. Donc là, tous les
éléments,
tout était réuni.
Et donc encore, tu vois, j'ai beaucoup lu sur toi. Tu es citée comme héroïne du digital dans un article de Grazia. L'appli a 3 ans, c'est la classe quand même, héroïne du digital.
Alors c'est flatteur, c'est très très flatteur, effectivement. Un peu survendu. J'en suis pas là. Ça m'a fait très plaisir quand Grazia effectivement m'a sollicité pour faire partie d'un article d'une revue sur des entrepreneurs dans le digital. Mais je ne m'attendais pas à être à côté de ces calibres qui étaient présentés comme la fondatrice de The Family, la fondatrice de Envie de Fraise. Enfin, il y avait vraiment des gros calibres qui ont largement fait leurs preuves chez Simone. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. J'espère qu'on l'atteindra.
C'est une nouvelle ère, en fait.
Oui.
La beauté à domicile.
Oui, il y a tout à faire. Il y a tout à faire parce que l'univers des salons, l'univers des instituts, ils ne se sont pas encore remis en question. Alors effectivement, il existe déjà des plateformes pour réserver un créneau dans un salon. Mais quelle pesanteur d'aller se trouver à un rendez-vous un samedi. Enfin, quand on bosse, c'est l'enfer. En général, on est sur du 9h, 19h. Et encore, quand je bossais en entreprise, c'était rare que je sorte avant 20h. Donc en gros, ma vie, elle démarrait, ma vie pour moi, pour ma beauté, elle démarrait le samedi. Et puis alors, quand je suis devenue maman, alors là, j'ai eu une pensée émue pour toutes les mamans parce que j'ai réalisé à quel point c'était difficile de s'aménager du temps parce que le week-end, ta beauté, c'est loin d'être ta priorité. C'est que tu n'as plus le temps de le mettre en priorité numéro un. Voilà, il faut d'abord faire les courses, il faut d'abord s'occuper des enfants, faut maintenir le foyer. Et puis, quand il reste du temps, on fait sa beauté. Alors, Simone, c'était aussi ce petit plus de dire, pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez faire venir quelqu'un, pas besoin de prendre une babysitter, pas besoin de vous aménager des espaces où vous dites à votre mari, salut chérie, je m'en vais.
Je reviens dans 2 heures.
Ce qui les met dans un état d'insécurité profond. Non.
Mais justement, tu me parlais de tes clientes. Tu as beaucoup de clientes donc femmes. Est-ce que tu as un peu d'hommes ?
On a quelques hommes. Surtout les soirs de match, d'ailleurs. Ils commandent des cartes cadeaux. Non, ils commandent des cartes cadeaux pour leurs femmes. Ou ils commandent des rendez-vous.
Pour être tranquille. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça.
On a quelques hommes également qui profitent de la coiffure. Souvent, ce sont des femmes qui commandent pour toute la famille, une coupe pour toute la famille. Les ongles également, quelques hommes pour la beauté des ongles.
Voilà. Justement, je discutais un jour avec un pilote d'Air France et il me disait, je fais faire mes ongles en institut. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte que les hommes faisaient leurs ongles.
Eh ben oui. Ouais. Oui, il y a l'Institut de l'Acre, avenue Georges V, les hommes, les grands hommes de ce monde vont faire leurs belles mains.
Comme quoi,
quand ils passent pas par Simone.
Voilà.
Et aujourd'hui, où se trouvent les clientes Simone ?
À Paris, puisqu'on n'est qu'à Paris.
Paris et Île-de-France.
Là, on est vraiment sur la petite ceinture autour de Paris. Donc effectivement, Boulogne, Neuilly, Suresnes, tout ce qui est à la périphérie. On a pas de problème pour le desservir. Après, Île-de-France, Chantilly, on a du mal, par exemple.
Et du coup, comment vous allez essayer d'aller plus loin ou pas ?
Oui, il va falloir le faire. Il va falloir. C'est même pas qu'on doit essayer, c'est qu'il faut le faire.
Parce qu'il y a des filles qui sont frustrées, hein, je pense.
Il y a des filles qui sont frustrées, il y a des femmes qui nous écrivent, il y a des professionnels qui nous écrivent. Et on sait que ce soit un peu plus loin que le bord de Paris, mais en Île-de-France, même en province, les besoins sont partout les mêmes. Et c'est bien commode de faire intervenir des gens chez soi.
Bon, Florence, on va parler un petit peu de toi. Prête ?
Prête.
Tu es coquette, un petit peu ?
Très.
Très. Et la beauté, c'est quoi pour toi ?
La beauté, c'est depuis toute jeune. La beauté, c'est une manière d'exprimer sa personnalité. C'est une manière de sublimer son identité. Et puis maintenant que je suis moins jeune, c'est une manière de bien vieillir.
T'as commencé à te maquiller à quel âge ?
Tard, j'avais pas le droit.
Ouais, moi non plus.
Vers 17-18 ans, pour sortir, je pense, pour sortir le soir.
Un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres.
Voilà, très light. J'essayais de mettre du fond de teint, c'était moche sur ma peau. Je me disais toujours pourquoi ça marche pas, ça faisait des paquets et tout. En fait, j'avais pas compris que j'avais juste une peau trop jeune pour que ce soit joli.
Ça n'allait pas. Et tu as une routine beauté ?
Plutôt, oui. J'utilise et je recommande les brosses nettoyantes.
Ah oui,
ouais, c'est
la brosse électrique.
La brosse électrique, c'est vraiment efficace. Paris, c'est quand même un peu pollué. On prend le métro, on se maquille. Enfin, voilà, c'est bien de nettoyer en profondeur sa peau. Alors, il faut pas l'utiliser tous les jours, mais deux fois par semaine. Ouais. C'est plutôt ça maintient une belle qualité de peau. Après, basique hydratation, alors là, rien de fou, Embryolis.
Ah oui,
la crème de ma grand-mère.
Ouais, je vois très bien ce que c'est. Ouais.
Si tu la voyais,
elle a une belle peau.
87 ans, elle a une peau, c'est un truc, je l'envie. Je me dis que j'ai de bons gènes.
Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, ta grand-mère.
Oui, sans doute. Beaucoup mieux que nous. Beaucoup.
Mais je sais pas.
Mais j'ai découvert que l'embryolis, surtout, c'est très utilisé par les maquilleurs professionnels. Nombre d'entre eux l'utilisent parce que c'est une crème qui est... C'est un basique anti-allergène. Enfin, ça va provoquer aucune réaction.
D'accord.
Donc du coup, c'est bien même à utiliser comme base de maquillage.
D'accord.
Voilà. Et puis après, je me maquille.
Ouais. Donc mascara, un peu le teint.
Mascara, ouais, bien sûr. Toujours un peu les yeux. J'ai de petits yeux, alors j'essaye de les agrandir un peu, en tout cas de les faire un peu plus présents. J'essaye de travailler un peu le smoky, c'est pas facile. J'aime un peu le teint, toujours un peu le teint. Des correcteurs, j'utilise j'aime bien les correcteurs d'Yves Saint Laurent, j'aime bien le fond de teint de chez Armani, quand j'ai le temps de me faire un joli teint. Sinon, les teints bicolores de chez Laura Mercier, compacts, sont très pratiques à avoir avec soi. Le rouge à lèvres, quand on a besoin de se mettre un coup de fouet à la mine ou qu'on se sent particulièrement en forme.
Plutôt rouge,
rouge foncé.
Un peu comme moi, en fait. On est
d'ailleurs brune. Hein.
Florence est brune, les yeux marrons.
Les
comme
brunes,
moi.
Voilà.
Un peu le même teint. À peu près.
Ouais. Et j'ai du mal à sortir sans maquillage. Ouais. Je me maquille pas énormément, mais toujours un peu.
Même le week-end ?
Pas quand je vais faire du yoga, mais...
après le yoga. En même temps, une fois, moi, j'ai fait du yoga avec un petit peu de maquillage. J'en avais partout à la fin. Je ne recommande
yoga
pas.
Yoga Bikram, tu fonds.
Il faut se démaquiller avant le yoga. On dirait pas comme ça, mais... Ouais. Il y a un parfum d'homme qui te rend folle.
Aqua di Parma. J'aime beaucoup les eaux. notamment Cyprès de Toscane et un autre, Fico di Amalfi. Donc c'est une marque de parfum italienne, assez confidentielle. Plutôt, donc, ce sont des colognes.
Des colognes. Qui te font voyager un peu.
Exactement. Mmh. Que porte mon homme souvent l'été. Et que j'adore lui piquer.
Oui.
Voilà.
Ouais. Et c'est toi qui lui achètes ? Enfin, c'est toi qui lui as dit
qui
voulait qu'il porte ce parfum-là ?
Oui. J'avais entendu une femme en parler un jour. Je la trouvais extrêmement belle, élégante, cette femme. J'écoutais ses paroles. Je peux dire qu'elle avait forcément de bons conseils. Elle parlait d'Acqua di Parma. Ça m'a donné envie d'aller sentir. Et je suis tombée amoureuse de ce parfum. Journée. J'aime également Bois d'hiver de la marque Ex Nihilo. Ce sont des parfums de niche quasiment faits en demi-mesure. Très, très beau parfum. Et ça, pour le coup, j'adore quand
ça, mon homme... Ça, le porte l'hiver, plutôt ?
Oui, ouais, quand mon homme le porte l'hiver.
D'accord. Et ce parfum se trouve où, du coup ?
Alors, il y a une très belle boutique qui est rue du Faubourg Saint-Honoré, juste à côté de la boutique Vuitton. On est accueillis par des vrais spécialistes qui ont des années d'expérience dans le parfum. Alors, c'est très agréable parce qu'elles savent vraiment vous orienter, même jusqu'à la composition éventuellement d'un parfum pour soi-même, fait sur les bases des essences qui ont été conçues. Voilà, c'est...
Sympa, ok. T'en as à pas découvrir. Pris un pour toi, pour femme.
J'y songe.
Florence, alors je pose rarement ces questions dans les podcasts, mais je crois que ça va devenir un petit rituel parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse ?
Elle est très difficile, ta question.
Je sais.
Alors j'ai plutôt une nature heureuse. J'aime la vie. Et c'est une bonne chose. Des petits riens me rendent très heureuse. Courir le long de la Seine, marcher en montagne, passer un moment là, comme ça, ce soir, discuter, tout ça, c'est des petits moments qui me rendent très heureuse.
Moi aussi.
Bon, et puis je voudrais pas non plus que ma famille s'en offense, mais les moments très privilégiés que j'ai avec mon mari, mon enfant, ça me rend je suis très fière de tout ce que j'ai réalisé. Et je crois que le bonheur, en tout cas ce qui nous rend heureuse, c'est soit des moments où on est dans une contemplation de quelque chose, où on se sent extrêmement vivant. Du coup, on est reconnaissant, on constate la chance qu'on a de ce moment-là. Soit on la constate a posteriori, on se dit ouais, « c'est moi qui ai tout ça quand même, qu'est-ce que j'ai de la chance, qu'est-ce que je suis heureuse à cet instant
?» Et est-ce que tu as un passe-temps favori ?
Un passe-temps favori ? J'ai pas souvent l'occasion d'avoir à combler mon temps, malheureusement. Mais quand j'ai un petit peu de temps, j'aimer lire. Alors j'achète beaucoup de livres. J'achète beaucoup de livres, toutes sortes de livres, des livres, des romans, des livres sur le marketing, la psychologie, pourquoi pas, des biographies de grands visionnaires. J'en lis certains.
Et on parlait d'un livre juste avant le podcast,
oui,
un livre sur la beauté.
Oui, le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre d'un philosophe, Charles Pépin, qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve ». Ça m'a émue. J'ai voulu en savoir plus parce que travaillant dans la beauté, qu'un homme parle de la beauté salvatrice, je peux te dire qu'il avait forcément des choses intéressantes à nous révéler. Pourquoi la beauté nous fascine-t-elle ? Pourquoi avons-nous tant besoin du plaisir particulier qu'elle nous donne ? À chaque fois que la beauté nous touche, elle nous réapprend à nous faire confiance, à nous écouter, à nous ouvrir à la promesse d'un absolu.
Wow.
Voilà, je trouve ça très beau. Ça s'applique à tout, à la beauté dans l'art, comme à la beauté qu'on peut se donner au travers d'un instant make-up ou autre.
Et tout à l'heure, justement, on parlait des femmes et de la beauté. Est-ce que vous aidez des femmes ? Est-ce que vous allez aider des femmes avec l'application Simone ?
On a souvent... On a souvent parlé d'aller vers effectivement les cliniques, les endroits réservés où les femmes finalement n'ont pas accès à la beauté parce qu'elles sont dépendantes de l'hospice qui les héberge. Et ça, c'est un point important dans l'écosystème aussi de Simone. On est capable de mobiliser des professionnels vers les consommatrices. Et il y a beaucoup de consommatrices oubliées, que ce soit des personnes âgées, des personnes malades. Pour le moment, on n'a pas eu encore suffisamment de force interne pour pouvoir établir des programmes réguliers. Mais prochainement, pour la journée de la femme, on va intervenir dans un foyer de femmes battues pour les remaquiller, leur faire du bien, leur faire les ongles, les cheveux, leur redonner confiance en elles, beaucoup d'estime d'elles-mêmes également.
Voilà. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes qui souhaitent entreprendre ?
C'est difficile de donner des conseils.
Quelque chose qui t'aurait aidé, toi, peut-être.
Mais ce qui est important de savoir, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être plusieurs choses que j'estime importantes aujourd'hui. Bien s'entourer. Parce que dans les moments difficiles, et même à tout moment, avoir des bons conseils autour de soi, ça n'a pas de prix. Ce sont des conseils, et surtout des conseils gratuits. Quand on est jeune entrepreneur, on a peu d'argent et on s'aperçoit de tout ce qui est payant autour de soi, c'est compliqué. Donc être bien entouré, ensuite être persévérant et patient. Il faut savoir s'accorder du temps, probablement imaginer, multiplier par deux le temps qu'on s'est accordé pour le temps et le budget qu'on s'est accordé pour réaliser ce qu'on a envie d'atteindre. Voilà.
Ce podcast se termine, Florence.
Je suis déjà
ravie. Ouais, déjà. Écoute, je te souhaite plein de succès pour Simone.
Merci beaucoup.
Je te souhaite vraiment d'aller dans la France entière, parce qu'il y a toutes les filles.
Et plus encore.
Et plus encore, peut-être mondiale.
Qu'on aille vendre la beauté à la française, à l'international.
Exactement. C'est une appli qui est géniale. Donc voilà, plein de succès. Et merci d'avoir fait ce podcast avec moi.
Merci, Katia.
Et à bientôt.
À très bientôt.
Ciao.
Ta bouche brûlante quand tu souris. Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit.